Bienvenue dans Learn More, le podcast qui révolutionne la manière d'entreprendre chez vous, en bureau, entre amis. Je suis Sébastien Mauré, business coach, investisseur en immobilier, entrepreneur depuis 23 ans et libre financièrement. Depuis plusieurs années, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent obtenir leur liberté financière et une relation à l'argent plus puissante et apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes le vendredi 12 avril. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous allez tous très très bien. Moi, j'ai la pêche aujourd'hui. Alors déjà, je voudrais vous remercier et je voudrais aussi vous donner quelques secondes, si vous ne l'avez pas encore fait, pour me laisser un maximum d'étoiles dans votre espace. Vous descendez, vous scrollez sur l'épisode, vous laissez un 5 étoiles si c'est possible, vous mettez même un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et c'est surtout que ça va m'encourager à continuer à vous livrer des podcasts toutes les semaines maintenant depuis presque 2 ans. Enfin, ça fait 1 an et demi que je fais des podcasts, donc je parle d'indépendance financière, je parle d'argent, je parle d'une bonne gestion justement financière de vos finances personnelles, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, enfin j'aborde quand même pas mal de sujets et il y a même aussi des interviews. Voilà, donc ça c'est fait et ça a lieu toutes les semaines sur ce podcast. Vous le savez comment ça fonctionne. En gros, à chaque fois j'aborde un sujet, donc là aujourd'hui on va parler de quel pourcentage on doit attribuer à son patrimoine, par rapport à son patrimoine, en action ou en immobilier, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, et je vais vous donner mes recommandations, mais surtout je vais vous expliquer quel est finalement l'impact en termes de temps, en termes d'énergie aussi pour vous, concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter de choisir plutôt l'immobilier, plutôt la bourse, et est-ce qu'il ne faut pas finalement faire les deux, et si oui, quel impact ça va avoir sur vos finances personnelles par rapport à votre patrimoine. Donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va voir ça en seconde partie. Dans la première partie, j'aborde toujours mon actualité. Alors non pas pour me la raconter, c'est juste que j'essaie d'être transparent un maximum avec vous sur ce que je fais au quotidien. L'idée, c'est plutôt de vous inspirer, c'est plutôt de vous projeter un petit peu sur moi, mon parcours d'entrepreneur, et si ça peut vous apporter des choses et si ça peut vous permettre d'avoir un déclic ou de vous aider à aller plus loin dans votre vie, ou vous donner peut-être cette énergie que vous avez besoin. On est le vendredi, alors généralement vendredi c'est quand même plutôt cool parce que c'est la veille du week-end et généralement on est plein de bonne volonté le vendredi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Par contre, je vous enverrai le podcast le lundi matin. J'ai comme l'impression que lundi matin, ça vous saoule. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, si vous me direz si vous préférez le lundi matin pour vous donner une bonne dose d'énergie pour la semaine, n'hésitez pas parce que ça peut être aussi un bon format. Le booster ou la picousse du lundi pour tenir toute la semaine. Bon, allez, on arrête un petit peu la plaisanterie. Donc, moi, je suis en ce moment donc, dans le village de ma femme. Je suis en Thaïlande toujours et là, je suis parti à la campagne. Donc, je tourne cet épisode. Là, j'ai une vue devant moi sur la campagne, tout simplement, avec des arbres, avec... c'est la nature. Donc, par contre, le seul hic de tout ça, c'est qu'il fait très chaud. Là, j'ai la climatisation qui est allumée et heureusement parce que sinon, c'est juste intenable puisque il doit faire, je crois, un truc comme 40, 45 il fait 45 dans ma pièce et dehors, il doit faire un truc comme 39 ou 40. Il fait très, très chaud, les amis. Donc, très compliqué d'être en extérieur. L'après-midi, c'est juste insupportable. Vous allez me dire que je me plains alors que vous, il doit faire 8 degrés, je crois, j'ai regardé ce matin. Ou 10 degrés, je sais bien, mais vous voyez, on n'est jamais content. Soit il fait trop froid, soit il fait trop chaud, bref, on n'est jamais content. Et ce matin, je suis en train de me faire une réflexion, je me disais, punaise, s'il n'y avait pas la climatisation, mais comment on ferait? Et je me dis, en fait, l'humain tombe de plus en plus dans la facilité. Et je me dis, si un jour on n'a plus de ressources électriques, on n'a plus accès à tout ça, l'humain ne va pas supporter ce qui se passe, en fait, puisqu'on a un réchauffement climatique et qu'il fait toujours de plus en plus chaud. Si on n'avait pas les nouvelles technologies d'électricité, etc., aujourd'hui, climatisation à tout va, comment on ferait, quoi? Et je me dis, comment il faisait dans le temps? Alors, dans le temps, il ne faisait peut-être pas aussi chaud non plus, c'est vrai, mais je me dis quand même, on arrive quand même à un blocage, je trouve, parce qu'on a besoin de plus en plus de ressources. Qu'il faut produire pour pouvoir supporter la vie de tous les jours. Bon, bref, c'est mon petit coin, ça, un petit peu philosophe et un peu mes réflexions personnelles que j'ai parfois, Je réfléchis beaucoup, je suis un grand penseur. Bref, c'est pas le sujet. Donc là, je suis parti dans le village de ma femme. Cette semaine, moi, c'était une semaine où je suis en train de mettre en place mon bureau, puisque j'ai passé pas mal de temps maintenant en Thaïlande. Alors, je vais quand même, parce que j'ai des personnes qui m'ont posé la question, qui m'ont dit « Donc, tu reviens plus en France ?» Si, je reviens en France, c'est pas le problème. D'ailleurs, je serai là pour tout le mois de juin. Mais c'est vrai que je vais y passer quand même beaucoup plus de temps en Thaïlande, non pas pour un côté fiscal ou autre, c'est juste pour un confort de vie. C'est parce que je kiffe vivre ici. Alors, c'est vrai aussi que mon épouse est thaïlandaise, donc ça aide forcément. Mais c'est aussi pour le confort de vie, parce que j'aspire à ça depuis très longtemps maintenant, et que mes enfants sont maintenant grands, et que je me dis que c'est le moment ou jamais de le faire, parce que peut-être que dans quelques temps, je ne pourrai peut-être pas le faire pour tout un tas d'autres raisons. Je me dis là, tous les voyants sont globalement au vert. Je me dis, je le fais maintenant et j'en profite un maximum. Et ça me permet d'avoir un autre confort de vie par rapport tout simplement à mes choix de vie, en fait. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Alors, par contre, je suis en train de me créer un vrai coin bureau. Donc, j'ai loué un local qui fait une quarantaine de mètres carrés. Donc, je suis en train de tout le décorer, parce que quand je vais tourner mes vidéos, quand je vais faire mes podcasts, quand je vais aussi bosser, j'aime bien avoir un bon confort de travail et avoir du bon matériel. Donc, j'ai investi pas mal dans de la décoration. Donc, je suis en train de tout aménager. C'est cool, ça me plaît. J'adore faire ça. J'adore décorer, en fait. C'est un truc qui me plaît vraiment. J'adore ça. Donc, du coup, je m'amuse avec ça. Là, j'ai fait une petite pause parce que je suis parti dans la campagne, parce que c'est Songkran ici. Voilà. Donc, Songkran, c'est quoi, si vous connaissez pas? C'est le nouvel an thaïlandais. Donc, ça dure 4 jours. Donc, nous, on vient passer finalement une semaine ici, dans la maison de la famille de ma femme. Et Songkran dure 4 jours. Donc, ça commence demain, samedi. Ça va durer jusqu'à mardi. Et je rentre normalement mardi ou mercredi sur Bangkok. Voilà. Donc voilà un petit peu moi mon quotidien. Donc j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Je suis toujours en train de mettre à jour ma formation sous location. J'ai énormément bossé encore hier, encore aujourd'hui là-dessus. La formation vraiment sous location, c'est juste de la bombe atomique. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je vous le redis encore. C'est pas pour me la raconter, mais honnêtement, enfin, je pense que les retours seront hyper positifs sur cette nouvelle version. Hier soir d'ailleurs, j'ai fait un webinaire qui a été un énorme succès. Vous étiez hyper nombreux, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont passées à l'action, qui sont convaincues qu'il y a quelque chose à faire dans la sous-location. Pour moi, c'est le business de 2024, franchement. Enfin, pour moi, c'est le business qu'il faut lancer sur 2024. Je mets toute mon énergie pour vous convaincre de faire cette activité, parce que ça me paraît essentiel. Autre chose aussi, alors là, c'est plus une petite fierté personnelle. J'approche des 30 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et normalement, j'aurai 30 000 abonnés le 27 avril, d'après les statistiques que je reçois régulièrement. Donc, je suis assez content, assez fier. Oui, on peut dire ça, mais surtout de la content, parce que c'est des objectifs que je me suis fixés. J'en avais parlé l'année dernière sur mon épisode. C'était un peu l'objectif de cette année. Je bosse aussi sur un... Donc, ça, c'est un truc qui va arriver. Donc là, je suis cool. C'est cool. Je vais le fêter, d'ailleurs. Je ne sais pas comment. Je voudrais le fêter avec vous. Je voudrais faire quelque chose avec vous. Donc, j'ai quelques pistes en tête, quelques idées. N'hésitez pas aussi à m'en soumettre si vous voulez. Mais je voudrais aussi vous remercier de tout ça, parce que c'est aussi grâce à vous. Peut-être que je ferai un live. Enfin, voilà, ça sera quelque chose de particulier. Je sais pas quoi, mais je veux vraiment faire quelque chose de particulier, parce que pour moi, 30 000, c'est quand même significatif. Après, l'objectif, ça va être 50 000. Et puis l'objectif plus lointain, ça va être 100 000. Hein. C'est quand on est niché comme moi, si vous voulez, sur cette activité, on peut pas se dire on va faire 200 000, 300 000 abonnés, vous voyez, ou 1 million. C'est juste pas possible. Parce que là, on est vraiment sur du grand public. On veut tout ça, mais en fait, je m'en fous un peu. C'est pas le problème. C'est juste que ce que je veux, c'est que les personnes qui m'écoutent soient des personnes qualifiées, qui aiment ce que je fais, qui aime mes vidéos, qui les écoute, qui trouve un intérêt à ça. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Il y a eu pas mal de choses quand même cette semaine. Donc en France, on a redécoré une sous-location, ça j'en ai déjà parlé. Sur ma conciergerie, c'est pareil, il se passe pas mal de choses encore. Pas des trucs toujours... qui sont positifs, des trucs chiants, qu'il faut régler, qu'il faut gérer. voilà, c'est plein de petits détails, plein de petites choses, mais qui des fois un peu me saoule, me fatigue, parce que bah, j'ai pas la main, parce que c'est moi aujourd'hui ma conciergerie, c'est un investissement, c'est-à-dire que je suis pas dans l'opérationnel, je suis pas sur place, voilà, donc je suis vraiment là plus en supervision, et quand je vois des choses qui me plaisent pas, forcément j'ai la rage, j'ai la haine, parce que je me dis putain. Moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas géré ça comme ça, et au final, c'est ça qui est embêtant en fait. C'est ça qui est chiant quand vous n'avez pas les mains, vous n'avez pas la main dans votre entreprise, parce que vous êtes que voilà, que moi je suis le président, donc je suis quelque part juste celui qui représente l'entreprise, mais ça s'arrête là. Je suis pas dans l'opérationnel, et bah vous avez beau des fois laisser vos consignes, et bon, malheureusement, on voit que c'est pas suivi ou mal compris. Bon, voilà, c'est des fois des choses qui me peinent un peu, et bon, il faudra à quoi je vois si j'arbitre pas à un moment donné là-dessus, et que je me dis bon bah est-ce que c'est pas le moment de céder ma boîte et de passer à autre chose, c'est tout quoi, voilà. Non pas que le business n'est pas rentable, mais juste que j'en ai marre quoi, que ça correspond pas à ce que moi je voudrais faire, que les erreurs qui sont faites, qui auraient pas dû être faites, et que faut reprendre derrière. Donc moi je suis tout le temps celui qui vient sauver le truc. J'aime pas cette situation, c'est chiant, c'est juste chiant pour moi, et bon, c'est comme ça. Voilà, puis je travaille sur d'autres projets, mais j'ai pas encore envie de vous en parler. Je vous teaserai un peu plus tard, mais je travaille sur un autre projet là, qui est assez ambitieux, et mais je peux pas vous en parler encore parce que c'est beaucoup trop tôt et qu'il y a rien de fait pour l'instant. Mais quand ça sortira, ça devrait vous plaire. Allez, on va maintenant enchaîner sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on investit? Quel pourcentage de votre patrimoine devez-vous investir en actions contre l'immobilier? Alors, je m'appuie notamment sur un article qui a été rédigé sur le blog Patrimoine. Donc, un blog qui est plutôt bien fait, sur lequel je suis abonné et qui est vraiment top. Les articles, je trouve, sont vraiment de très bonne qualité. Et c'est surtout que bah, ça met un peu en fait, c'est une autre vision. La personne qui rédige est conseiller en gestion de patrimoine et... j'aime beaucoup ce blog, je vous invite vraiment à l'écouter, enfin à le regarder, à le lire. Il y a beaucoup d'informations intéressantes, c'est pertinent, je trouve, ce qui est dit ici. Et donc, je vais m'en inspirer aujourd'hui pour réaliser ce podcast. Donc, bien évidemment, le patrimoine, aujourd'hui, quand on parle de patrimoine, ça structure autour de trois principaux actifs. L'immobilier, les actions et tout ce qui est produit qui donne des taux d'intérêt. Donc par exemple, tout ce qui est placement, livret et obligation d'État. Donc c'est très simple, hein, le patrimoine, c'est ça aujourd'hui. Donc bah forcément, vous allez dire bah, qu'est-ce que je répartis, dans quelle catégorie, dans quel type d'actifs pour constituer mon patrimoine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut accepter ce qu'on appelle, ou ce que l'auteur appelle, le prix à payer de chacun d'entre eux. Donc si on prend l'épargne, donc c'est l'ensemble des placements rémunérés donc par un taux d'intérêt, tels que les fonds euros, des contrats d'assurance vie, les obligations, le livret A, le PER, bref, l'épargne est par nature temporaire. C'est finalement une accumulation d'argent, c'est un stock de monnaie qui a vocation à être dépensé dans les 8 à 10 ans. L'épargne a vocation à financer un projet comme des études des enfants, l'achat d'un véhicule, un apport pour une acquisition immobilière. L'objectif de l'épargne, c'est pas d'enrichir l'épargnant, mais c'est simplement d'assurer une disponibilité des capitaux lorsqu'il y en aura la nécessité. C'est un petit peu le fonds de réserve, le fonds de secours en cas de problème. C'est ça l'épargne en fait. Mais bah, l'épargne, vous savez très bien que le retour, enfin, c'est pas là où il y a les meilleurs taux d'intérêt. C'est pas là où vous allez vous enrichir. D'ailleurs, c'est pas le but. Hein. On fait pas ça pour s'enrichir à l'épargne. C'est plus pour avoir cette soupape de sécurité en cas de problème. Ensuite, après, on a donc les deux autres classes d'actifs qui sont l'immobilier et les actions. Mais c'est plus des investissements. Donc, contrairement à l'épargne, hein, qui finance un projet, investir par exemple dans l'immobilier ou en action suppose de ne pas avoir besoin de l'argent avant très longtemps. Peut-être même ne jamais en avoir besoin. Immobilier et actions sont des investissements. Cela signifie que donc leur performance est par nature aléatoire et donc directement dépendante du niveau de performance de l'économie. Ce sont des actifs qui évoluent au gré de la croissance, du PIB, du produit intérieur brut et de l'inflation. C'est alors que se pose la question, bah effectivement, comment on va répartir ces investissements entre l'immobilier et les actions ? Alors, dans la réalité, hein, il n'y a pas de répartition théorique parfaite sur les deux actifs, puisque la répartition entre actions et immobilier va surtout dépendre de votre capacité personnelle à accepter le prix à payer de chacun de ces deux investissements. Alors justement, c'est quoi le prix à payer dans tout ça ? Donc le prix à payer d'un investissement, c'est en fait la contrepartie. C'est qu'est-ce que vous allez devoir accepter de subir pour bénéficier un rendement élevé ou non de tel ou tel investissement. Si vous réalisez un investissement sans être prêt à en payer le prix, vous en ressortirez forcément perdant. Forcément. C'est pour ça que certains, par exemple, n'ont pas les retours escomptés. Vous vous dites, bah, moi, ça n'a pas marché. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas été OK avec la contrepartie. Notamment sur le temps, notamment sur la longueur. Ils veulent un résultat rapide. Mais ça, ça ne marche pas. Je vous ai fait un podcast la semaine dernière où justement, je vous ai expliqué comment s'enrichir rapidement. Et là, c'est autre chose. Là, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Je vous en ai parlé très longuement sur le podcast précédent. N'hésitez pas à le réécouter ou si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Parce que justement, je vous explique comment on peut s'enrichir rapidement. Mais s'enrichir rapidement, ça n'a jamais été avec l'investissement. Ça a été avec l'entrepreneuriat. Donc, c'est tout autre chose. Donc, si vous réalisez un investissement sans être prêt à payer le prix, c'est clair, vous serez perdant. Vous n'obtiendrez jamais un rendement espéré et surtout, vous risquez même de perdre votre capital. Et ça, c'est plutôt embêtant. Plus puissant que le risque dont la compréhension se limite au risque de perdre, le prix à payer permet d'exprimer la contrepartie du rendement avec des termes plus précis. Alors justement, on y arrive. Quand on investit dans le capital des entreprises, dans ce qu'on appelle les actions, dans l'esprit collectif, le risque d'investissement en actions, c'est la moins-value, le risque de perdre toute ou partie de son capital et bah, c'est un risque que vous allez prendre. En revanche, si en appréciant le risque par le prix à payer pour obtenir le rendement, l'approche est complètement différente. Parce que pour profiter d'un rendement élevé dans l'investissement en action, il y a un prix à payer. Et c'est quoi ce prix à payer ? Donc si vous êtes prêt à prendre ce risque, là, ça peut être un bon investissement. Alors c'est quoi ce risque ? C'est déjà de bloquer un capital pendant 15 à 20 ans minimum. Donc forcément, si vous avez comme moi 40 balais, 45 balais, c'est beaucoup plus dur de se dire « punaise, il faut que j'attende au moins mes 60 ans avant de pouvoir profiter de ce capital ». Et je vous le redis, c'est surtout qu'il ne faut pas en avoir besoin. Parce que si vous en avez besoin à un moment donné, c'est là où malheureusement, vous allez faire une sortie, mais ça ne sera pas au bon moment. Et vous le verrez, ce sera la même chose dans l'immobilier. Si vous sortez parce que vous avez besoin de sortir, par exemple, vous divorcez, comme moi ça m'est arrivé, et là j'en ai vécu, forcément je l'ai vécu, et je peux vous assurer qu'on a revendu rapidement, on est sorti au pire moment. Au pire moment. Donc, bloquer son capital pendant 15 à 20 ans minimum, d'accepter aussi le stress de la variation des cours de bourse pendant cette période longue d'investissement. Donc moi c'est pareil, je ne vais pas vous recommander d'avoir vos yeux en permanence sur la variation des cours, parce que ça va monter et ça va descendre. Et quand ça va descendre, vous n'allez pas être bien. Si vous regardez trop souvent vos actions, vous n'allez pas être bien. Moi, c'est vrai que je me suis rendu compte, là, depuis quelques temps, je fais beaucoup plus d'investissements en bourse. Donc, je regarde beaucoup plus, je m'y intéresse beaucoup plus. Et ce que je fais, c'est que, par exemple, avant de prendre une action, généralement, ce que je m'amuse à faire, c'est noter. J'ai un petit bloc-notes. Enfin, alors, ce n'est pas un bloc-notes papier, c'est un bloc-notes électronique. Mais en fait, je note, alors même s'il y a les courbes, etc., mais je prends le soin de... une action qui m'intéresse où je sais que je pense qu'il y a une opportunité, j'y vais régulièrement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et je note. Je note en fait le cours et je regarde un petit peu ce qui se passe. Ça m'évite de toucher à mon patrimoine, ça m'évite de toucher à mon argent, mais ça me permet quelque part de faire comme si j'avais pris l'action en fait. Vous voyez, je suis dans la course, mais en fait, j'ai rien investi. Alors, par contre, il y a des actions où j'y vais franco, mais quand vous j'y vais, faut éviter, parce qu'en fait, votre principal ennemi dans l'action, le principal danger, c'est que votre émotion va vous faire prendre une prise de décision. C'est-à-dire que par exemple, vous investissez, malheureusement, vous avez investi, le cours, il est beaucoup trop haut. C'est-à-dire que notamment, on parle beaucoup de PER, c'est-à-dire de finalement de... Est-ce que l'action, elle est surcotée ou au contraire, est-ce qu'elle est sous-cotée ? Mais même s'il y a des indicateurs, personne ne peut vous garantir que c'est le bon moment pour investir ou pas. Clairement. Donc, il y a des indicateurs, il y a des analyses techniques, il y a aussi votre façon aussi d'imaginer, parce qu'on parle de business quand même, on parle de vraie entreprise derrière. C'est pour ça que d'ailleurs que je préfère ça au Bitcoin ou à la crypto-monnaie, parce qu'au moins, je comprends dans quoi j'investis, vous voyez ce que je veux dire. Et quand vous faites ça, en fait, moi, à mon sens, il faut éviter de trop regarder. Parce que si vous regardez trop, vous allez tenter de revendre. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire « Ah ouais, punaise, là, je perds quand même vachement mon capital. Ça se trouve, ça a baissé encore plus. Vaut mieux que je sorte maintenant. » Ah ouais, mais non. Il aurait fallu attendre parce qu'il y a des actions qui parfois chutent pendant 5-10 ans et au bout peut-être de 15 ans vont commencer à repartir. Et vous aurez vendu dans le pire moment. Donc là, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, dites-vous, bon, bah, de toute façon, l'argent, elle est mise là-dessus. J'attends. Alors, si vous avez pris des actions en dividende, bah, au moins, vous n'attendez pas avec pour rien parce qu'au moins, il y a quand même un petit peu de distribution de dividendes, même si on sait que à chaque fois qu'une distribution de dividende, il y a ce qu'on appelle le détachement du coupon. Donc, ça veut dire que l'action mécaniquement perd en valeur. Est-ce qu'elle va rattraper le retard par la délivrance de l'action, enfin du dividende ou pas, c'est la question. Mais bon, essayez de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Il faut accepter l'aléa, c'est-à-dire que le caractère totalement imprévisible des cours de bourse à court terme, c'est évident. Et puis réussir à investir dans un nombre suffisant d'entreprises pour éviter d'investir dans la mauvaise. Eh ouais, parce que le meilleur conseil que je peux vous donner, alors je précise aussi, je ne suis pas, je ne vous donne pas des recommandations à l'achat, je ne suis pas un organisme conventionné pour vous donner des conseils, etc., etc. En gros, ce que je vous donne ici, c'est mon analyse personnelle. C'est le fruit de mes propres recherches, de mes propres expériences. Mais après, si vous voulez investir, c'est vous qui faites vos recherches et c'est vous qui, en votre âme et conscience, faites vos choix. Je le précise parce que voilà, c'est obligatoire et c'est surtout que vu que je ne suis pas un organisme conventionné et que je ne suis pas un organisme reconnu pour faire ce genre de choses, je préfère le préciser ici. Encore une fois, ce n'est que mon expérience et c'est ma liberté d'expression. Donc, réussir à investir dans un nombre suffisant d'entreprises pour éviter d'investir dans la mauvaise, eh oui, parce que vous diluez le risque. Parce que se dire, je fais all-in sur une action, alors là, c'est juste le truc complètement fou et que je vais absolument vous déconseiller de faire. Ainsi, celui qui accepte ce prix à payer doit pouvoir espérer bénéficier du rendement très élevé de l'investissement dans le capital des entreprises via des actions. Le véritable risque de l'investissement en actions n'est pas tant de perdre de l'argent, mais plutôt de se surestimer, mal dimensionner son investissement et plus généralement de ne pas être capable d'accepter le fameux prix à payer. Donc la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable d'accepter ce prix à payer que je viens de vous dire ici si vous voulez investir dans les actions ? Vous le savez, les actions, c'est un excellent levier pour s'enrichir, mais s'enrichir sur du long terme, pas sur du court terme. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire « Mais si, moi je suis du trading, blablabla, blablabla, blablabla. » C'est une minorité, d'accord ? C'est une minorité, puisque même les traders les plus performants sont des gens qui perdent aussi de l'argent. Ils vont vous dire quand ils en ont gagné, mais ils ne vous diront pas quand ils en ont perdu. Et à quelle proportion, vous ne le saurez jamais. On arrive ensuite à l'autre classe d'actifs qui est donc l'immobilier. Donc, soit dans l'investissement locatif, soit dans sa résidence principale. Alors, c'est quoi le prix à payer pour bénéficier d'un rendement élevé d'investissement immobilier locatif ? Donc, tout comme l'investissement en action, l'investissement immobilier est théoriquement très rentable pour celui qui accepte, encore une fois, le fameux prix à payer. Donc, qu'est-ce que c'est que le prix à payer dans l'immobilier ? Bah, c'est pareil, c'est être capable d'investir sur une très longue période, 15 ou 20 ans, qui permettra d'amortir les frais de transaction très élevés et un cycle immobilier qui n'est pas toujours favorable. Parce que dans l'immobilier, alors surtout en ce moment où je vous fais cet épisode, on a traversé là 3 années, 4 années qui ont été juste de la folie parce que le prix de l'immobilier n'était pas très cher, on empruntait des taux très très bas. Là, ça y est, l'immobilier donc est monté très très haut. Là, ça y est, il est redescendu à peu près 10% en moyenne. Et là, on arrive sur quelque chose de stable. Donc on voit qu'on est en train de terminer un cycle là. Et on rentre dans un nouveau cycle, mais un cycle beaucoup plus moyen. Parce qu'on va emprunter avec des taux qui vont rester relativement, alors pas élevés, mais des taux, En fait, ce qu'on connaissait il y a ça 10 ans de ça, je veux dire, on est sur des taux là, 4%, 3,5%, 4%, enfin, c'est des taux classiques. Et on est sur un prix de l'immobilier, ça y est, qui est en train de se restabiliser. Donc, vous voyez que là, on a terminé un cycle, on rentre dans un nouveau. Franchement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je vous le dis, nous sommes dans un nouveau cycle, là, ça y est. Hein, donc, combien de temps dure un cycle, on n'en sait rien. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que l'immobilier, si vous sortez pas à la fin du cycle, ou au départ d'un nouveau, en fait, ce n'est pas le bon moment. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans la moins bonne des configurations, c'est-à-dire que vous allez vouloir revendre, alors qu'en fait, il ne fallait pas du tout revendre dans cette période-là. Ce n'était pas du tout le bon moment. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est pareil. Quand on investit dans l'immobilier, il faut attendre suffisamment longtemps, déjà pour absorber aussi, mine de rien, tout ce qui est frais de notaire, parce que les frais de notaire sont un coût dans votre transaction, puisque ça représente 8% à peu près. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre quand même un minimum de temps. Il y a aussi des amortissements, des travaux que vous allez réaliser. Donc, ça, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que là, je vous dis 15-20 ans est l'idéal, puisque là, on va arriver à la fin du crédit. Parce que si vous avez fait un crédit sur 20 ans, si vous revendez au bout de 15 ans, ça veut dire que vous avez bien tapé dans le capital. Les intérêts ont été remboursés depuis un petit moment. Vous tapez vraiment dans le capital. Alors que si vous le faites dès le départ, vous payez en fait que les intérêts. Donc, en fait, vous sortez dans la pire des configurations. Donc, c'est pour ça qu'on dit 15 ans, pour moi, c'est vraiment la. Alors, l'idéal, c'est même les 20 ans, mais 15 ans déjà, c'est très très bien. Et c'est pour ça aussi que pas mal d'investisseurs, par exemple, sortent au bout de 10 ans. Pourquoi ? Parce que 10 ans, ils ont commencé déjà à amortir un petit peu de capital. Donc, c'est une configuration assez, on va dire, assez bonne. Et c'est aussi que tous les amortissements sur notaires, travaux, etc., ont été amortis. Donc, je vous mets 15 ans pour être confortable. 20 ans, c'est le top. Bien évidemment, mais dès 10 ans, vous pouvez réellement envisager de sortir. Mais attention, parce que 10 ans, c'est assez court dans l'immobilier. Donc attention. Autre prix à payer, c'est de consacrer du temps et de l'énergie dans la gestion quotidienne de son bien immobilier et du locataire. Il faut accepter de s'investir personnellement dans la gestion du bien. C'est d'ailleurs pour ça que pas mal de gens arrêtent l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils en ont ras-le-bol des locataires. Ils ne veulent plus en entendre parler. Alors même si vous déléguez, vous donnez ça à une agence immobilière qui va vous gérer vos locataires, le fait est qu'il y a toujours une limite à ça. Et on sait très bien qu'il y aura toujours des problèmes. Et que si, par exemple, le locataire est en retard sur les moyens payés, ça va falloir déclencher les assurances, il va falloir déclencher des organismes, etc. Vous, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas payé. Donc, ça va avoir du stress. Ça va générer du stress chez vous parce que vous voyez que votre locataire reste dans le logement, il ne part pas. Peut-être même qu'il va se convertir en squatteur parce qu'il va arriver à la fin du bail. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et que finalement, il n'est pas parti. Donc, il faut lancer une procédure qui dure 1 an et demi, 2 ans. Vous ne retrouvez pas votre argent. Votre logement, il est rendu dans un état complètement insalubre. Et en fait, vous vous retrouvez à vous dire, j'ai fait de l'immobilier, d'accord, mais au final, c'est que du stress, ça me prend toute mon énergie. Et ça, c'est, à mon sens, c'est le plus gros prix à payer quand on fait de l'immobilier. Alors sinon, il y a la courte durée, mais la courte durée, si vous la faites par vous-même, il y a un prix à payer. C'est clair et net. Oui, vous allez avoir plus de rentabilité, vous allez gagner bien plus d'argent, c'est évident. Mais le prix à payer, c'est que c'est complètement chronophage. En fait, il y a plein de choses à faire là-dedans. Il y a plein de choses à gérer. Alors, il reste une dernière solution qui est confier son logement à une conciergerie d'appartement. Alors, je vais avoir du mal à critiquer les conciergeries puisque je mets en avant ce type d'activité. Mais enfin, attention, parce que dans les conciergeries, il y a de tout. Il y a de la conciergerie qui va vraiment vous accompagner et qui va faire un excellent travail. Et il y a la conciergerie qui va en faire le moins possible et va vous prendre des frais qui vont être assez chers, c'est vrai, qui vont venir complètement baisser votre rentabilité. Et en plus de ça, qui vont parfois vous laisser gérer les problèmes. Genre, et notamment, on a encore aujourd'hui ce problème parce que c'est un problème technique. Par exemple, avec Airbnb, quand il y a un problème dans le logement, la conciergerie ne peut pas déclarer l'incident. C'est au propriétaire qui a son propre compte Airbnb de déclarer l'incident. Donc là, on voit bien que il y a du stress, il y a l'énergie qui est prise là-dedans, que ça va vous prendre la tête, ça va pas forcer, c'est pas passif, quoi. C'est pas du tout passif. Alors après, la conciergerie peut le faire aussi pour vous, mais vous allez être au courant de la situation. Donc, vous allez vous dire, punaise, j'aurais jamais dû faire ça. Mon logement, il a été abîmé. Il y a eu tel problème. Enfin, c'est source de stress. Je vous le dis, l'immobilier, c'est effectivement, il y a une source de stress. Même moi, le premier, je n'ai pas la solution miracle. Il faut accepter qu'effectivement, il y a ce fameux prix à payer. C'est-à-dire que certes, on gagne de l'argent, mais il y a quand même des choses à gérer dans son bien immobilier. Donc, d'accepter le stress de la sélection du locataire solvable et d'investir régulièrement dans l'entretien et l'amélioration de son bien immobilier. Et ouais, parce que l'immobilier, c'est pas parce que vous achetez un bien immobilier que dans 10 ans, il sera toujours en même état. Non, il va se détériorer. Moi, je sais que je repasse régulièrement par là. Donc, ça veut dire qu'il faut refaire appel par des artisans. Par exemple, on refait les joints des douches. Où là on fait appel à une conciergerie, enfin j'appelle à ma conciergerie, j'appelle des personnes, donc ça veut dire qu'il y a de la gestion, il faut envoyer des mails, il faut envoyer des WhatsApp, enfin, c'est pas, il y a un prix à payer. Celui qui accepte ce prix à payer se donne les moyens effectivement de réaliser un investissement qui est pour le coup rentable, c'est évident. A contrario, celui qui n'accepte pas ce prix à payer pourrait bien connaître un rendement final qui est finalement peu satisfaisant. Donc, de manière caricaturale, on pourrait simplifier le propos en expliquant qu'investir en action, c'est investir dans un actif qui ne demande aucune gestion au quotidien, aucune compétence, aucune énergie, mais qui suppose d'être capable d'accepter le stress de l'aléa et de la volatilité. Être capable d'assumer l'imprévisibilité totale des variations des cours de bourse à court terme. C'est ça, en gros, le retour. Personne n'est capable d'anticiper l'évolution à court terme des cours de bourse. Mais à long terme, par contre, l'histoire nous a expliqué que c'est un investissement qui est le plus rentable, puisque le cours des actions monte toujours à long terme car ils sont indexés sur la croissance économique elle-même inexorable. C'est pas par hasard que, par exemple, si vous répliquez un indice, par exemple, vous prenez un ETF sur le S&P 500, on sait que le S&P 500, c'est un indice qui réalise en moyenne lissé sur, par exemple, 20 ans, 10%. Mais c'est sûr que si vous le faites que sur 5 ans, pendant 5 ans, il peut très bien être qu'à 2%, quoi, voire même négatif. Mais les années qui vont suivre derrière vont rattraper tout ça. Et donc, si vous êtes suffisamment capable d'attendre suffisamment longtemps, vous serez gagnant sur le long terme. Mais sur le court terme, vous risquez peut-être de ne pas être gagnant. Investir dans l'immobilier, c'est accepter une contrainte de gestion quotidienne lourde, même si effectivement, moi le premier ou d'autres vous disent c'est du passif, etc. Ça m'est peut-être déjà arrivé de le dire. Mais non, il faut dire la vérité. L'immobilier, c'est pas passif, quoi. C'est pas passif. Il y a forcément une contrainte, une gestion quotidienne à gérer. Il y a du stress, il y a l'énergie à consacrer pour gérer ses biens immobiliers et gérer ses locataires. Il faut dire ce qu'il est, c'est comme ça, c'est tout. Mais par contre, investir dans l'immobilier, c'est aussi la sérénité d'un investissement dont le prix n'est pas volatile pour le coup, contrairement au marché des actions. Le prix de l'immobilier ne bouge pas beaucoup à court terme et augmente même inexorablement au gré de la croissance de long terme. Donc là, c'est pareil sur du court terme. Il y a très peu de chances, sauf si vous êtes au mauvais moment d'un cycle, mais il y a très peu de chances que vous perdiez de l'argent. Par contre, si vous êtes capable d'attendre suffisamment longtemps, vous êtes certain de gagner de l'argent. Les prix de l'immobilier montent toujours, car ils sont eux aussi indexés sur la croissance économique, elle-même inexorable. Il faut bien comprendre qu'une entreprise ou l'immobilier, en fait, indirectement, c'est indexé sur la croissance économique qu'il y a dans notre pays. Donc, c'est assez logique. Il convient donc du coup de déterminer sa capacité à assumer le prix à payer de chacun donc des deux investissements que j'ai pu vous donner juste au-dessus, pour répartir, pour le coup, son patrimoine correctement. Quand vous avez compris ce que je viens de vous dire dans cet épisode, bah là, vous êtes capable normalement de vous dire, bah ok, moi j'accepte telle contrainte. Il y a des personnes qui ont arrêté complètement l'immobilier, qui ont pris tout leur argent de l'immobilier et qui ont tout mis en bourse. Donc effectivement, ils ont plus cette contrainte de gérer des locataires au quotidien. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que moi aujourd'hui, j'ai fait de l'investissement. Alors moi, en fait, je fais tous les classes d'actifs, hein, entrepreneuriat, investissement dans l'immo, investissement en bourse. Mais c'est vrai que l'immobilier, parfois, ça me fatigue. Donc, je sais que j'attends encore quelques années. J'attends, je pense, encore au moins 5 ans que mes biens immobiliers se soient bien rentabilisés, que je puisse sortir dans la meilleure des périodes. Je sais que là, c'est pas la bonne période, donc je vais attendre. Et je pense que cet argent sera replacé tout simplement dans des produits boursiers. Mais moi, je sais aussi que j'ai une contrainte, c'est l'âge. Moi, j'ai 48 ans. Je vais avoir 48 ans au mois de juillet. Je sais que, moi, je suis pris par l'âge. Mais un débutant, quand je dis un débutant, un jeune, par exemple, comme mon fils Pierre, ou mes autres enfants, ou vous qui avez peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, là, j'ai envie de vous dire, moi, je trouve que vous avez le temps d'attendre, en fait. Vous avez le temps d'attendre, il n'y a pas de stress, quoi. Parce que si vous êtes capable d'attendre réellement les 20 ans, ça veut dire qu'à 40 ou 50 ans, les amis, vous êtes millionnaire. vous êtes millionnaire. Et vous êtes assis sur un capital hyper confortable, sur un matelas hyper confortable. Mais le problème, c'est qui est prêt à attendre 20 ans ? C'est long 20 ans, c'est très long. Mais c'est pourtant bien la clé de la réussite et de l'enrichissement personnel. Voilà les amis, on termine sur cette belle parole. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher les étoiles, maximum d'étoiles. Franchement, faites-le s'il vous plaît. Faites-moi ce petit plaisir, ça me plaît. Je peux regarder en plus vos commentaires, vos avis. Je vois que le nombre de vues augmente, tout ça, ça me plaît. Et encore une fois, je fais ça par pure passion. Ça me plaît de vous parler de tout ça et j'espère que ça vous inspire. Donc, si oui, bah, je compte sur vous. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que vous allez passer une belle journée aujourd'hui. Que votre journée sera ensoleillée, qu'elle sera pleine de belles énergies, plein de belles nouvelles, plein de positivité. J'espère que vous-même vous portez bien, que vous n'avez pas d'ennui de santé, que vous sentez bien, que vous êtes bien dans votre peau. J'espère sincèrement, parce que c'est le plus important pour moi. Et puis j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Profitez-en en famille, avec quelques amis. N'hésitez pas, c'est important tout ça. Vous savez, on n'a qu'une vie. La vie passe très très vite, donc c'est vrai que je vous parle beaucoup d'argent. C'est important, mais ce n'est pas, on va dire, c'est pas ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est partager des bons moments avec ses amis. Mais pour en partager, il faut aussi avoir un certain confort à un moment donné pour ne pas se retrouver dans des situations où on est en galère. C'est quand même mieux, je pense, de se coucher le soir et de savoir qu'on a un petit matelas qui est en train de se gonfler petit à petit que de dormir sur l'oreiller et qu'il n'y a pas de matelas. Je pense que vous avez compris à quoi je faisais allusion. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien et à très vite. Ciao !